Bruno Cavalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Odo et compagnie. On va parler avec vous d'économie, de perspectives économiques après un été assez compliqué de ce point de vue-là, avec des chiffres, alors peut-être qui se sont confirmés sur la zone euro. Hein, on a toujours beaucoup d'inquiétudes sur la zone euro. Aux États-Unis, on vient d'avoir des chiffres qui nous paraissent peut-être meilleurs qu'attendus. Quel est un peu votre environnement économique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des améliorations ou est-ce qu'on reste quand même dans beaucoup d'incertitudes après cet été?
L'économie réelle n'a pas vraiment changé entre ce qu'elle était avant l'été et en cette rentrée. Ce qui a changé, surtout en Europe, je crois, c'est la perception qu'il y a peut-être un plan plus crédible pour mettre un terme, peut-être pas immédiat, mais à un terme à cette crise financière et à la manière de gérer cette crise de la dette souveraine. Finalement, on avait tous les ingrédients pour avoir un mois d'août absolument terrifiant, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas essentiellement grâce, disons, les promesses de Mario Draghi, laissant espérer, je dirais, une intervention coordonnée, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas une intervention parallèle de la Banque centrale européenne, d'une part, et des mécanismes de stabilité qui existent, qui sont activés par les gouvernements, d'autre part.
Alors, on a eu effectivement ces espoirs-là, et puis on a pu voir, vous suivez comme moi les dépêches qui tombent, on a pu voir que côté allemand, effectivement, il n'en était pas question. On a vu, en fait, on retrouve un peu les discussions entre à chaque fois un espoir et puis douché très souvent par l'Allemagne qui, elle, veut garder un certain nombre de principes.
J'ai une lecture un peu différente de celle que vous présentez concernant la position allemande, qui est beaucoup moins monolithique qu'elle était par le passé, et sans doute beaucoup moins que ce que beaucoup dans la presse française relatent. Prenons un exemple. Il y a deux Allemands qui siègent au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Il y a 3 ans, les deux Allemands avaient une position clairement opposée aux interventions de la Banque centrale européenne sur les marchés de dette. Aujourd'hui, il y en a un qui reste sur cette position, c'est M. Weidmann, le président de la Bundesbank. L'autre, M. Asmussen, paraît beaucoup plus pragmatique. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les critiques de M. Weidmann, qui sont les mêmes que celles que Weber, son prédécesseur, faisait il y a 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, lorsque la crise a vraiment pris toute son intensité en Europe, elles n'ont pas évolué d'un iota, alors que la situation, elle, a changé. Et je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit que dans le volontarisme affiché par Draghi, il y a une justification nouvelle. C'est qu'il met en avant le risque, pour reprendre son expression, de fragmentation des marchés financiers. Parlons français, fragmentation des marchés financiers, ça veut dire qu'il y a un risque d'éclatement de la zone euro. Dès lors qu'on est dans cette configuration-là, évidemment, c'est une justification très forte pour la Banque centrale de prendre des mesures additionnelles. Et les critiques allemandes de ce point de vue-là, je trouve, tombent complètement à plat.
Donc il y aura encore bien sûr de nombreuses discussions, de nombreuses réunions, de nombreux allers-retours et de nombreuses sursauts, de nombreux sursauts sur les marchés sans doute en réaction à des rumeurs ou des choses confirmées. Mais de votre point de vue, il y a une ébauche de solutions qu'on n'avait peut-être pas encore il y a quelques mois. Il y a plus d'optimisme peut-être.
Oui, je crois que si vous voulez, il y a 3 étapes. Il y a la volonté d'action, il y a la mise en forme d'une stratégie, d'un plan d'attaque, et puis il y a sa mise en œuvre. La première étape est franchie. On est dans la deuxième, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux détails, aux aspects opérationnels. On se préoccupe évidemment d'avoir que tout ça soit bien juridiquement et politiquement acceptable. La mise en œuvre, maintenant, c'est très intéressant de souligner la différence qui est en train de se dessiner. C'est qu'il y a 1 an, lorsqu'on rentrait de vacances, ça avait un été 2011 très tumultueux, on avait vu que la Banque centrale européenne était intervenue sans contrepartie des gouvernements, si bien que dès lors que la pression était retombée, ils avaient continué de faire n'importe quoi, en particulier en Italie, avec des déclarations un peu dans tous les sens. La BCE se dit cette fois, non, je ne vais pas refaire cette erreur-là. Commencez par vous engager sur un certain nombre de politiques ou de mesures. Et puis ensuite, moi, je viendrai en complément. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la base sur laquelle, je crois, cette coopération entre la Banque centrale et le gouvernement pourrait enfin se mettre en place. Et ce serait quand même la première fois depuis 2 ans et demi qu'on est confronté à cette crise de la dette souveraine, où on aurait une action vraiment. On réunirait les forces. Voilà. On n'a pas beaucoup de forces lorsqu'on les disperse. Lorsqu'on les regroupe, sans doute, on change de dimension.
Alors, du côté effectivement des États, si on prend l'Europe du Sud, il y a eu beaucoup de plans effectivement annoncés, de réformes. On voit que effectivement les conséquences, bien sûr, sur le plan économique, avec un chômage qui explose en Espagne, avec effectivement l'Italie dans une situation difficile. On voit que ces plans de rigueur, en tout cas, il y a des questions sur ces plans de rigueur qui finalement ne fonctionnent pas tant bien que ça, en tout cas, ont du mal à s'implanter et ne règlent pas complètement la situation.
Oui, enfin, la rigueur n'a jamais été là pour fabriquer de la croissance. La rigueur, elle est là pour restaurer, dans certains cas établir à partir de rien, une crédibilité budgétaire. Bon, donc le prix à payer, effectivement, c'est un impact négatif sur la croissance. Alors que personne ne l'a jamais véritablement nié. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui accompagne ces politiques d'austérité, qui sont effectivement extrêmement dures à supporter au plan économique et social dans les pays que vous avez mentionnés. Bah, ce qui accompagne, ce sont des politique de réforme pour rendre le marché du travail plus flexible, pour rendre l'économie plus efficace, pour essayer de restaurer la compétitivité des entreprises. Toutes choses qui donnent leurs effets bénéfiques lorsqu'ils interviendront au bout de plusieurs années. Donc je crois que ça ne remet pas totalement en cause l'idée que de toute façon, lorsqu'on a des dettes importantes et des déficits importants, il faut essayer de remettre de l'ordre dans les finances publiques.
Un mot peut-être de la Grèce. Là, on reste dans les incertitudes, dans l'incertitude complète. On se demande effectivement entre ce que souhaiterait la Grèce, un délai, et ce que vont faire les autres Européens. On se dit que la Grèce, ça reste au centre de toutes les inquiétudes. C'est-à-dire que si à nouveau on a une idée ou une crainte de sortie de la Grèce de la zone euro, on retrouve la panique des derniers mois ou des dernières années.
Je ne crois pas que ce soit toujours au centre. C'est vraiment devenu à la périphérie. Je crois que le centre maintenant, c'est Espagne et par contagion Italie. Là, c'est du sérieux. La Grèce, je ne crois pas qu'aujourd'hui, maintenant que la restructuration et que le coût à supporter par les investisseurs privés est derrière nous, ça change beaucoup les choses au panorama européen. Bon, c'est toujours un certain caillou dans la chaussure, mais avant, ça nous empêchait complètement d'avancer. Aujourd'hui, c'est quand même un peu moins le cas.
Alors, si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu, je disais, dernier chiffre un peu plus favorable aux États-Unis. Là, le débat, c'est savoir si la Réserve fédérale américaine, effectivement, va proposer d'autres mesures, des mesures d'ici la fin de l'année d'assouplissement, effectivement, ce fameux QE. Est-ce que le débat est toujours là? Est-ce que c'est tranché compte tenu des chiffres qui ont été publiés?
À vrai dire, je crois que c'est le faux débat. C'est le faux débat de la rentrée, la question de la politique monétaire américaine. Le vrai débat de politique économique aux États-Unis, c'est celui du budget. Parce qu'on sait depuis le début de cette année que se présente un choc budgétaire au 1er janvier 2013. Alors pendant des mois, on se dit, bon, c'est dans longtemps, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Maintenant, ça commence à être très proche. Et le problème, c'est qu'on a, enfin le problème, en ce sens qu'aujourd'hui, on n'a pas de mouvement et de compromis possible politique parce qu'il y a des élections, mais on va se retrouver sans doute au mois de novembre, après les élections, quel que soit le résultat, avec presque devant nous ce choc budgétaire. Je rappelle que le Congressional Budget Office a fait un certain nombre de calculs pour dire, mais ce choc budgétaire est synonyme de récession. Donc soit vous lissez le choc, et à ce moment-là, vous aurez toujours des déficits plus importants, mais une croissance qui sera sans doute positive, ou bien vous ne le lissez pas et il y a une récession. Donc là, on a un vrai choix de politique économique urgentissime, mais le problème, c'est quelque chose qui est encore plus urgent. C'est pour M. Obama d'être élu ou M. Romney de prendre sa place.
Voilà, d'autres sujets. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci d'avoir fait le point avec nous, Bruno Cavalier. On rappelle, vous êtes donc chef économiste chez Oddo et compagnie.
Merci.